temps de partage questions-réponses.
C'est une question. Vous avez parlé quand sur le Concile de Trente, vous avez parlé effectivement de l'apport que ça apportait, et vous avez dit, c'est en parlant, je ne sais pas quoi, c'est pas une condensée de la doctrine chrétienne. Est-ce que le terme de doctrine, comment vous l'entendez, votre... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une doctrine chrétienne?
Oui. C'est le mot que vous avez dans les Actes des Apôtres quand on parle de la didaké, c'est ce qui est enseigné. Le Christ ne se contente pas de lancer des idées, il a une manière de parler qui est cohérente et le travail que vont faire les auteurs du Nouveau Testament, c'est sous des formes différentes, épistolaire pour Paul, plus narratif pour les évangiles, c'est de présenter justement cette cohérence d'un enseignement. Jésus vient apporter du neuf, il vient mettre de l'ordre dans les idées religieuses qu'avaient les juifs de son temps. Il vient mettre au centre des choses qu'on ne mettait pas forcément au centre. Je parlais tout à l'heure du caractère essentiel de la grâce. La première chose, c'est effectivement, le règne de Dieu est proche, et c'est une bonne nouvelle. Bon, alors, il y a toujours plusieurs manières de dire les choses, mais effectivement, Jésus ne s'est pas battu pour qu'on observe mieux le sabbat, ou pour qu'on arrête de fréquenter les païens, etc. Il a fait le contraire, c'est un fait. Alors les évangiles, évidemment, ont relevé ce que Jésus apportait de nouveau, de différent, par rapport à son temps, à son environnement. Donc ils l'ont mis en valeur, parce qu'ils ont bien senti que, d'une certaine manière, on sortait du cadre juif, et effectivement, Jésus s'adresse pas seulement à ses compatriotes juifs, il a l'occasion de rencontrer des non-juifs, et puis très vite les chrétiens comprennent que ça peut concerner tout le monde. Alors, je parle de doctrine au sens où il y a cette cohésion, cette cohérence d'un enseignement, et qui, encore une fois, est... Alors, évidemment, c'est... Je ne sais pas si c'est votre question, mais le mot doctrine pourrait évoquer l'idée d'un système. Bon, alors évidemment, on ne va pas du tout dans ce sens-là. Il n'y a pas de base scientifique au discours de Jésus. Il est, lui, la base de son discours, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il fait. Il met des mots sur son comportement, sur son attitude, sur sa personne, sur ce qu'il est. Et c'est toujours, évidemment, en revenant vers lui qu'on trouvera la cohérence, que chaque chose peut trouver sa place. Donc, ce n'est pas un programme de formation qu'il a donné, mais les évangiles, assez vite, vont être amenés à faire des petits manuels. Je pense dans l'évangile de Marc, à ce qu'on appelle la section des pains, chapitre 6 à 9. On sent qu'il y a une espèce de petit évangile concentré avec une série de récits. Et quand on regarde bien, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un raccourci d'évangile où on a toute la révélation de Jésus et pour les juifs et pour les païens. Bon, Matthieu va étaler ça à travers les cinq grands discours de Jésus, mais il va choisir plein de récits entre ces discours. Bon, voilà, ils ont chacun leur manière de faire. Jean va bâtir, vous le savez, toute une réflexion, un approfondissement, en faisant parler Jésus d'une manière qui est tout à fait différente de celle des synoptiques. Mais là aussi, c'est une cohérence très très forte. Alors l'évangile de Jean, je vous mets au défi d'en faire une théorie, parce qu'avec sa manière de jouer sur les concepts qui ne sont pas des choses, mais qui sont des attitudes, des mouvements, hein, on a l'expérience de la vie chrétienne. On a l'impression qu'ils tournent en rond, qu'ils répètent tout le temps les mêmes choses. En fait, c'est tout le temps différent. C'est l'expérience chrétienne qui se dit à travers des mots. Alors, effectivement, il faut un peu quelques clés pour rentrer dedans, parce que les mots n'ont plus toujours le même sens pour nous. Donc, il y a effectivement tout un vocabulaire de gens avec lequel il faut être un peu familiarisé, qui puise en partie dans les Écritures. Mais pas seulement. Et il y a aussi donc tout un apport du judaïsme du 1er siècle qui essayait de réfléchir à cette manière dont la parole de Dieu était donnée au peuple juif pour le faire vivre. Bon, et bien, l'évangile de Jean a compris cette importance de Jésus, parole de Dieu, parole vivante de Dieu. Bon, voilà c'est des exemples, mais en tout cas, évidemment, le mot doctrine a le sens de ce qui est enseigné et non pas d'un système clos et même pas comme un manuel, si vous voulez. Personnellement, quand j'entends le récit de ces 8 guerres, entre autres, avec les atrocités qui se sont produites, hein, là je dirais que Daesh n'a rien inventé. Hein. Bon. Et finalement, moi la question que je me pose spontanément, alors je ne sais pas si tu aurais des éléments pour m'éclairer, mais comment des chrétiens, au nom de leur foi, ont pu en arriver là? Alors qu'ils soient convaincus, qu'ils soient passionnés, plein de zèle pour leur foi, je le comprends, mais c'est un mal fou à comprendre comment on peut effectivement tuer celui qui ne pense pas comme moi au nom de Dieu. C'est le au nom de Dieu, évidemment, derrière, qui pose problème.
Certainement l'oubli du esprit de service au profit de l'esprit de pouvoir.
Alors, je crois qu'il y a ça, il y a effectivement aussi, me semble-t-il, le regard qu'on porte sur l'autre. Je vous rappelle l'expression qui était employée au XVIe siècle, il s'agit de la religion prétendue réformée ou prétendument réformée. Elle est religion, oui, mais en employant le terme de religion, on en fait autre chose que la religion chrétienne. Dans la précision du langage du XXe et du XXIe siècle, nous parlons de confessions différentes de la religion chrétienne. Et la purification du vocabulaire a une importance considérable dans cette histoire-là. C'était des mal-pensants au XVIe siècle. En forçant légèrement le trait, on se demande si c'était pas pire que des mahométans. J'ai bien dit, je force le trait. Mais par certains côtés, je pense qu'il y avait une animosité considérable les uns contre les autres, une non-reconnaissance. Oui. Alors, la comparaison n'est pas forcément bonne, mais c'est à l'époque des dragonnades, si ma mémoire est bonne, et du démarrage plus exactement, c'est deux décennies après, pardon, début de la guerre des Camisards, c'est un épisode qu'on isole joyeusement comme d'habitude, l'assassinat du père Duchella, de l'abbé Duchella, par les protestants. On l'a brillamment isolé.
De quelle année ?
1700 et quelques.
Début 18e.
Tout début du 18e. Le problème, c'est qu'on l'a tellement isolé qu'on a oublié que l'abbé Duchella s'était comporté de manière très affectueuse à l'égard des protestants, en assassinant un certain nombre. Donc, vous voyez, là aussi, on a des problèmes avec le respect des choses telles qu'elles se passent, quoi. Je crois que nous avons appris quand même deux ou trois choses. C'est d'abord à nous écouter. Et je crois que l'année prochaine, on essaiera d'aborder ça de manière très précise, mais le mouvement œcuménique, c'est précisément ce qu'on n'aurait jamais dû quitter, si j'ose dire, c'est-à-dire cette qualité de l'écoute et du dialogue. Y compris au travers de questions qu'on s'est posées dans l'histoire du XXe siècle. Mais attendez, monsieur le pasteur, père, éminence, etc. Qu'est-ce que vous dites quand vous employez cette expression-là ? Explication faite. Mais ce n'est pas si différent que ce que nous nous disons. Et c'est pas du relativisme que dire ça. C'est découvrir qu'au travers de deux traditions différentes, nous disons avec des mots différents la même chose. Je me permets d'évoquer ce que nous avons vécu en Normandie quand nous avons travaillé tous ensemble dans un groupe. Pas toute la déclaration sur la justification, mais de très larges extraits pendant toute une année. Et j'avoue que comme animateur, j'étais pas tranquille au début parce que, bon, malgré tout, même si c'était en partie avec des moines et des moniales au bec et loin, il y avait aussi des laïcs. Et dans une partie des séances, parce qu'on dialoguait les uns avec les autres, il y avait un bon climat, les frères et sœurs catholiques disaient quand même « la justification, ce n'est pas un terme que nous employons ». Donc la culture n'était pas la même, la tradition n'était pas la même. Et à la fin, je leur ai dit « bon, maintenant, où est-ce que vous en êtes ?»« Ah ben, on comprend. Et on est d'accord. » Mais voyez que, fondamentalement, ce travail d'acclimatation et d'apprivoisement mutuel est essentiel. Nous sommes faits de traditions différentes, de manières de transmettre l'Évangile différent. Et en plus, nous avons une grande difficulté, et il me semble que c'est aussi central, c'est que nous ne nous rendons pas compte que l'Évangile s'est traduit dans des dites traditions différentes. Il y a quatre évangiles, au sens littéraire du terme, et il y a l'Évangile de Paul. Car désolé, peut-être que ça va être une surprise pour vous, mais Paul parle de mon Évangile. C'est-à-dire, ma manière de transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est une manière sacrément conséquente, si j'ose dire. Ceci pour nous dire, l'Évangile doit rester au singulier, mais il peut prendre des formes différentes. Et toute notre difficulté, c'est de tenir les deux ensemble. Et c'est finalement tout l'objet de nos 2000 ans d'histoire. Peut-être qu'on arrive à mieux tenir ensemble des choses apparemment contradictoires dans l'époque contemporaine. Mais rien n'est gagné. Il suffit qu'on laisse un terme de côté, un terme de la doctrine, point d'interrogation, pour que on rate quelque chose. Un terme dans les trois dont j'ai parlé, injustice, paix, sauvegarde de la création, qui fait que ça ne fonctionnera pas de la même, avec la même ampleur, si j'ose dire. J'ai aimé, parce que tu m'as fait sursauter, quand tu as parlé de la justification par la foi. Et nous, naturellement, et puis en plus, comme je suis un peu tordu, je vais compléter, pour moi, ce n'est pas la justification par la foi, c'est la justification par la grâce de Dieu au moyen de la foi. C'est pas la même chose. Précisément parce que c'est Dieu qui nous fait grâce et qui nous donne le don de la foi. C'est-à-dire la capacité de répondre de manière favorable à ce qu'il nous donne. J'espère bien. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'effectivement, ça remet en lien et l'œuvre de Dieu et la réponse de l'homme. Mais cette réponse, désolé, elle est seconde, elle vient après. Elle vient après l'appel que Dieu nous adresse. Et pour notre temps, il me semble que la grande question, c'est mais comment est-ce que nous pouvons être les témoins de cette grâce de Dieu auprès des gens qui n'en ont strictement rien à faire. Et je repense à notre débat en groupe biblique cet après-midi où une personne appartenant au groupe a dit toute sa difficulté à saisir que oui, l'Évangile était encore porteur à l'heure actuelle. Et je ne sais pas ce que ça t'a fait comme effet, Dominique, mais à un moment, je me suis dit, bon, allez, on baisse les bras parce que la vision était trop pessimiste. Je crois qu'il y a des choses qui se passent à l'heure actuelle qui sont tout à fait heureuses. Oui, vas-y, Patricia.
C'est pour ça qu'on ne peut pas quand même peut-être voir un parallèle entre l'enjeu qui se passe dans nos rencontres écuméniques et ce qui s'est passé avec ces guerres et ces paix. Dès l'instant où la religion est liée avec la politique ou le pouvoir, la guerre existera. Pour moi, en tout cas, c'est légitimer la guerre parce qu'il y a une volonté de mise en ordre quand même par la religion qui est par, oui, certes, le pouvoir qui maintient la religion, la religion qui détient le pouvoir. Voilà. Et il y a la peur de l'autre qui n'est pas l'enjeu aujourd'hui parce qu'on est des églises qui se rencontrent et communiquent. Mais pour moi, en tout cas, personnellement, quand on s'est lancé dans ces trois années avec Luther, on a bien vu dès le départ, hein, c'était, vous l'avez bien dit, que la possibilité de faire cette commémoration, c'est parce que on avait proposé à l'Église catholique, depuis trois ans d'abord, la réflexion de faire une commémoration ensemble. Donc voyez-vous, c'est pas. Je trouve que l'enjeu aujourd'hui, c'est peut-être. Il n'y a pas tellement d'enjeux, on discute, on peut évoluer, parce que comme on dit toujours avec l'Église catholique, on est l'Église de base. Mais quand on va un peu plus loin sur une instance un peu plus élevée ou autre, c'est autre chose. Voilà. Donc pour moi, cette idée de guerre et paix, ça montre quand même pour moi qu'il y a, dès l'instant où la religion est mélangée avec un certain pouvoir, une certaine institution, il y a quand même un risque toujours de guerre. Et la paix à ce moment-là, c'est certes une dimension de justice, mais surtout de cessation d'animosité et de conflit en premier lieu. Après, parce que ceux qui cherchent la guerre aussi souhaitent faire émettre... Ceux qui font la guerre aussi, ou provoquent la guerre, dans leur idée aussi, il y a une idée de justice. Voilà. Donc, c'est pas aussi évident que cela, et que c'est pas quelque chose qu'on peut transmettre, en tout cas dans notre situation aujourd'hui. Il y a d'autres situations de religion où on peut peut-être plus creuser dans notre situation contemporaine de la guerre et de paix.
J'ai presque envie de dire, il y a deux choses qui me semblent importantes dans cette histoire des relations entre les religions de manière plurielle et puis la République française. Le premier élément, c'est que nous ne sommes pas obligés de nous aligner sur la compréhension du pouvoir. Je crois que dans l'Évangile, il y a un propos de Jésus qui, me semble-t-il, est fondamental. C'est « Vous n'avez pas à faire comme les princes de ce monde. Vous avez à rester dans le service. » Je le traduis en français courant, mais je crois que c'est quand même sacrément ça. Et donc, la manière dont nous vivons l'Église ne doit pas être du côté du pouvoir. Et nous devons exercer ce droit à l'égard de l'État de lui dire « mêlez-vous de vos oignons ». Si en effet, vous êtes distinct, en France en tout cas, de manière radicale, des églises, car je rappelle que le titre de la loi c'est « séparation des églises et de l'État », vous avez convenu par vous-même, et c'est la version d'Aristide Briand qui, je le rappelle, l'a emporté, vous avez convenu que les religions, toutes les religions, ou plus exactement pour respecter le vocabulaire, tous les cultes, avaient droit de cité, et droit de cité publique dans la société. N'y aurait-il pas par hasard dans l'histoire de ces 100 ans une légère distorsion, et quand je dis légère, c'est un euphémisme, entre la loi que vous avez élaborée et qui a été révisée 9 fois dans un sens libéral, je le rappelle, et qui donc conforte l'attitude de la République à l'égard des religions. Et donc distorsion entre ça, la pétition de principe légale, et puis la manière dont vous pratiquez cette loi. Et je crois qu'un jour ou l'autre, il faudra que les églises, au minimum, se prononcent clairement sur cette distorsion, en réclamant des pouvoirs publics qui respectent la loi que, par ailleurs, ils nous ont imposée. Et puis l'autre question, c'est effectivement, fondamentalement, qu'est-ce que nous pouvons dire en tant qu'Église, au pluriel, sur le fonctionnement des pouvoirs dans une république. Je crois qu'une des grandes questions qui doit nous habiter, c'est qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Est-ce que c'est l'exercice d'un pouvoir en vase clos et qui s'impose aux citoyens? Ou est-ce que précisément parce qu'ils sont des citoyens, et que là aussi il y a une pétition de principe, est-ce qu'on ne doit pas, comme représentant de ce peuple, respecter les citoyens comme partie prenante de cette démocratie? Alors je sais bien qu'on s'éloigne un tout petit peu, c'est pas si sûr du reste, de notre question, c'est-à-dire effectivement, est-ce que nous acceptons que vous pouvoir, quelle que soit l'époque, vous exerciez ce pouvoir de cette manière-là. Et moi je dis, l'expérience de ces 8 guerres et puis d'un certain nombre d'autres épisodes par la suite me fait dire, nous n'avons sans doute pas effectivement à baisser les bras à ce niveau-là et à laisser faire, justement au nom d'une nation, d'un peuple, ce qui nous semble plus que douteux. Dominique.
Tu as tout à fait raison, mais par ailleurs, je trouve que il y a toujours le risque d'instrumentaliser Dieu et de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », on a vite fait de dire « Ah, je suis derrière Jésus, donc j'ai la vérité ». Et je trouve que c'est un manque d'humilité aussi. Pour pouvoir concilier à la fois ses convictions et puis respecter celles de l'autre qui peuvent être différentes.
Oui, sauf que j'avais introduit un élément qui me semble décisif, c'est le fait que le pouvoir politique en 1905 et dans les décennies suivantes admet l'existence des religions. Et pour commenter le texte de l'article 2, si ma mémoire est bonne, l'État ne reconnaît aucun culte, mais il les connaît tous. L'État ne reconnaît aucun culte, c'est l'article. Et le commentaire, qui est une forme de glose, c'est en effet la reconnaissance par la République par la suite, je reconnais tous les cultes. Ce qui, accessoirement, nous laisse bien entendre que ce sont des cultes qui sont publics. Et chaque fois qu'on nous dit « la religion est une affaire privée », c'est un mensonge par rapport à la loi elle-même. Je précise pour que vous compreniez, au cas où vous ne l'auriez pas perçu, je suis moi-même juriste. Et il se trouve que j'ai légèrement travaillé sur la loi de 1905 et la suite. Et je commence à en avoir particulièrement assez d'entendre ces âneries-là. Parce que du coup, dès que quelqu'un fait quelque chose en direction d'une confession particulière, il y a les zouaves qui s'excitent joyeusement. Tout à fait.
Ce qui est très sidérant quand on regarde un peu l'histoire de notre humanité entière, c'est comment dans ces 5 siècles, je dirais de façon très, très violente malgré tout, d'abord au cœur du monde chrétien, puis face à ce monde laïque et sans athée ou autre chose, dans cette liberté, on va arriver dans une relation très conflictuelle quand même, à arriver à un mûrissement qui est quand même du progrès. On n'est pas encore arrivé dans cette justesse que l'on peut continuer à chercher, mais j'allais dire, alors est-ce que c'est lié aux principes chrétiens? Comment des chrétiens ont pu faire cela? On aurait pu dire comment des hommes ont fait ces sortes de barbaries-là, ou les barbaries d'Aège. Quel est le rapport entre le principe chrétien et le principe de raison? Est-ce que ce principe de raison s'est développé parce que il était fondé sur 1000 ou 2000 ans de judéo-christianisme? Et est-ce que toute religion peut accéder à cette liberté de conscience? Est-ce qu'un autre corpus, le Coran ou je ne sais pas quoi, peut permettre l'émergence de ça? Ou est-ce que le corpus, que moi je considère comme non révélé, sinon je me serais fait musulman tout de suite, peut porter finalement la même vérité qui conduit à la conversation que on veut développer entre nous? Et fondamentalement, parce que même s'il a fallu effectivement ces siècles un petit peu violents, c'est parce que nous disons, c'est que Dieu est lui-même relation intime. Et comment entre le principe chrétien qu'il a lancé, puis le principe de la raison, que nous les chrétiens nous reconnaissons, et la raison se fonde aussi sur quoi? Sur la raison toute seule, sur la raison basée sur un héritage judéo-chrétien, ou sur la raison basée sur un Coran ou d'autres choses? Comment l'humanité, dans ses corpus religieux, peut arriver à cette synthèse, tout en sachant les enjeux politiques qu'il y a aussi, quoi. Mais...
Je crois que toute notre difficulté, ça réside dans la distinction entre la prise en compte d'une tragédie humaine, dont la Bible est témoin, et la proposition de l'Évangile. Je reprends mon exemple du pouvoir. Les grands fonctionnent comme ça. Vous ne devez pas faire ainsi. Les êtres humains utilisent la violence et la haine. Aimez vos ennemis, qui est une réponse ô combien radicale. C'est-à-dire, en effet, l'Évangile prend au sérieux cette tragédie et on a un nombre impressionnant de pages qui, sans qu'on y soit attentif toujours, nous décrivent des situations tragiques. Et il me semble que face à cela et en présence de ça, il y a cette proposition de l'Évangile. Comportez-vous d'une autre manière. Et ceci étant fondé, et c'est là qu'il y a quand même besoin d'une doctrine, ceci étant fondé sur ce que le Christ a accompli au nom de Dieu, au nom de son Père et notre Père, si j'ose dire. Et que nous ne pouvons pas quitter cette tragédie-là. par certains côtés. Nous sommes dans cette tragédie. Et en même temps, nous avons à être témoins d'une autre... Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais il me semble que c'est fondamental d'arriver à comprendre que le comportement et l'état d'esprit chrétien sont en large distinction par rapport à, au monde. Et que là non plus, enfin moi j'ai bien aimé ce que tu as dit sur l'évangile de Jean, c'est un peu compliqué, je résume en deux mots, mais c'est extraordinairement riche. Et en particulier repenser à tout ce débat autour du monde dans l'évangile de Jean. Dans un premier temps, peut-être un deuxième, même on patauge joyeusement dans la distinction entre les mondes, si j'ose dire. Et que justement, cette inscription dans la réalité humaine, c'est une inscription qui en même temps se distingue de la pratique du monde. Et il me semble qu'à ce titre, le christianisme est à la fois génial et en même temps ô combien difficile. Parce que précisément, on s'inscrit là-dedans, dans la tragédie pour être rapide, mais en même temps, on lui donne un changement radical, quelque chose comme ça. Et c'est pas seulement... Face à la violence, ce n'est pas la non-violence, c'est une autre pratique que sans cesse il nous faut prendre le risque de réinventer. Ce n'est pas écrit. Ce qui est écrit, c'est le principe « fait autrement ». Et il vous est donné la liberté de créer dans cette orientation-là. Mais vous avez une orientation qui est sans le détail, si j'ose dire. Soyez créatif, si j'ose dire, dans cette liberté que moi, Dieu, je vous donne, quoi. Mais il y a une marge extraordinaire de liberté dans cet accueil de l'amour de Dieu pour nous et pour les autres. Y compris cette parole toujours difficile à mettre en pratique, hein, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est-à-dire effectivement une prise au sérieux de la réalité, hein, il se trouve que nous avons peut-être des ennemis, et en même temps un état d'esprit, un comportement complètement différent. Mais peut-être que je ne réponds pas à... Ou pas totalement. Et accessoirement,
le temps nous est compté. Et François a une communication à nous faire. Alors, tant qu'il s'approche, je vous rappelle qu'on se retrouve, je vous invite à me retrouver le jeudi 17 mai. Donc là, nous verrons l'édit de Fontainebleau sur la révocation, la restauration des églises protestantes et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ce, avec Madame Nicole Lemaître, historienne catholique, et Yves Noyer. Voilà, François.
Bien.
Avant de nous quitter.
Vous savez, les orthodoxes ont la réputation d'être longs, mais je vous rassure, on n'est pas parti pour 3 heures. Simplement, une petite chose, parce que le thème de ce soir est vraiment... ce que je veux vous dire, la continuité de ce thème de ce soir, puisqu'il faut savoir que le terme de guerre de religion a été créé par Michelet de toutes pièces, qui était un grand historien du 19e siècle, qui a vécu une histoire de France, où il a très bien montré qu'un État qui avait une religion ne pouvait pas être salvateur pour l'homme, et donc il fallait se débarrasser de la religion pour qu'un homme nouveau puisse naître et qu'un État puisse subsister. Donc c'est à Michelet qu'on voit ce terme de guerre de religion, et depuis, la théorie de Michelet continue à être dans le monde, puisqu'on utilise toujours le fait religieux pour justifier des guerres, on utilise la religion en règle générale avec un grand R pour justifier des exactions, et on repousse, comme disaient Yves Noyer et Philippe Bruzon, on repousse de plus en plus l'acte religieux dans la sphère privée. Alors, il y a un personnage et une personne qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, qui avait déjà écrit des ouvrages sur l'extinction, les génocides de tous les chrétiens qui sont au-delà de la Méditerranée, par son livre « Les hommes en trop ». On a la chance, par le groupe écuménique et la librairie de Beauvais, la librairie de la Procure à Beauvais, de l'avoir à Beauvais, c'est Jean-François Colosimo. C'est pour ça que vous avez trouvé sur vos tables une affiche et une explication de son dernier livre, « L'aveuglement ». C'est vraiment une chance parce que Jean-François Colosimo, c'est le directeur général des éditions du CERF, très connu des protestants et des catholiques et des orthodoxes, parce que c'est vraiment un grand éditeur. Et en même temps, vous pouvez le regarder sur tout ce qui justement les faits religieux. Il intervient souvent à la télévision et à la radio chez Jean-Claude Bourdin, c'est dans l'air, dans les émissions de Yves Calvi. Enfin, c'est un essayiste, un historien, grand théologien, et il a écrit un livre, Aveuglement, justement, où il repart des thèses un peu sulfureuses de l'obscurantisme des Lumières de 1792, où il montre que dès bien avant, il fallait créer un homme nouveau, et que le totalitarisme de 1917 eh bien, a continué dans cela, et en plus maintenant, dans ce 21e siècle, on utilise toujours bien le fait religieux pour faire des guerres et pour aller sur un homme nouveau, débarrassé de Dieu. Et donc, et il pense aussi, et c'est pour ça que je vous ai mis un peu l'explication du livre, comment ce qu'on appelle pudiquement l'islamisme, tous les terrorismes actuels issus de l'islam, eh bien, utilisent toutes ces thèses pour pouvoir faire leur exaction, créer eux aussi un État nouveau, avec des moyens actuels, et qui sont champions pour cela, et qu'on est parti pour 50 ans pour pouvoir éradiquer tout cela, si Dieu le veut, et les Américains. Ça, les Américains sont attirés. Hein, donc, voilà. Donc, c'est le 30 mai, c'est à l'église Saint-Jean-Baptiste à Beauvais. N'hésitez pas à venir, parce que Jean-François Colosimo se déplace rarement. Ça, c'est la première chose, parce que d'abord, il est très pris. Par la télévision, par France Culture, par les radios. Il fait quelques conférences et il faut savoir que nous avons un inconvénient, c'est que si l'Oise est près de Paris, les moyens de transport font qu'on a l'impression qu'on est à Tombouctou. Donc, quand je lui ai dit juste à venir à Beauvais, il m'a répondu, mais attends, t'as pas de train. Effectivement, à Beauvais, près d'un heure, il n'y a plus de train pour rentrer sur Paris. Comment ? Bah oui, en plus, il n'y a pas de direct. Donc il me dit, je ne vais pas coucher à Beauvais, parce que le lendemain, il faut que je sois à Lille, il faut que je sois là. Bref, on s'est arrangé. Donc c'est vraiment, sincèrement, le livre est exceptionnel. L'analyse politique, philosophique, théologique est d'exception. J'allais dire, pas venir, c'est vous priver de quelque chose d'important qui peut vous enrichir et nous enrichir. Donc venez, et si vous ne pouvez pas venir, eh bien, dédouanez-vous en simplement faisant une bonne et très bonne promotion de cette conférence. Vous donnez les affiches et puis vous dites aux gens qui nous appellent et on leur donnera plein d'affiches et puis venez nombreux.